L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Choisir le nombre de violons que l'on va engager dans les longs accords qui tissent un tissu harmonique au-dessus duquel il reste à savoir si le thème serait plus éclatant ou mieux suave en le confiant au basson plutôt qu'au trombone et s'il ne serait pas encore plus délicieux de les doubler avec des clarinettes basses, autant de choix d'orchestration qui font évidemment partie intégrante du travail de composition tout en relevant d'une science en soi quasiment détachable. Ravel, Debussy, Rimsky-Korsakov, Jean Français, Mel Bonis sont autant de compositeurs et compositrices qui se sont illustrés dans cet art spécifique de l'orchestration et que nous croiserons au fil de ce numéro orchestré de Métaclassique enregistré en public à la médiathèque musicale de Paris, Christiane Hédapierre. Nous recevons par ordre d'apparition dans l'émission Anthony Girard qui enseigne l'orchestration au CNSMD de Paris et qui publie Technique d'orchestration aux éditions Biodo et la musicologue Nathalie Hérold qui enseigne à Sorbonne Université et développe l'analyse musicale par le timbre. Promenade, le premier des tableaux d'une exposition de Moussorgski avec Marc-Andrea à la tête du Philharmonique de Munich. Bonjour Anthony Girard.
Bonjour.
C'était une version qui n'est pas orchestrée par le compositeur lui-même, mais par Mikhail Tourchmalov, qui a été le premier à faire une orchestration de cette partition.
Alors, en effet, c'est une. Mikhail Tourchmalov était un élève de Rimsky-Korsakov, donc on pense que Rimsky-Korsakov a lui-même mis la main à la pâte, bien que cette version, en réalité, avec le temps, paraît un petit peu désuète et on se rend compte qu'elle a du mal à rendre compte de la spécificité de la musique de Moussorgski. Elle a tendance un petit peu à la ramener à des, disons, à une écriture plutôt conventionnelle. Et surtout, elle a été effacée par le temps avec l'orchestration qu'a laissé Ravel, à qui on a justement reproché de ne pas être assez proche du style de Moussorgski. Donc cette question du style est effectivement au centre de toute question d'orchestration réalisée par un autre compositeur que lui-même.
Parce que ça veut dire qu'orchestrer, ça agit sur le caractère de la pièce. En l'occurrence, on pourrait en effet trouver cette pièce beaucoup plus pompeuse qu'elle peut l'être dans la version originale pour piano.
C'est clair, et surtout ça lui donne, au niveau de la couleur, on peut dire que Moussorgski introduit dans le langage une certaine originalité à travers des couleurs modales, à travers des spécificités qui sont en réalité étrangères à ce style orchestral employé par Tourchmalov, qui va user en fait cette prédominance des cordes, d'une doublure un peu systématique des cordes par les bois, donc ces fameuses mixtures qui permettent de donner une certaine épaisseur. C'est vrai que cette épaisseur, c'est ce qu'il semble avoir recherché ici, et puis jusqu'à cette terminaison avec un abus de percussion, pourrait-on dire. Encore une fois, là j'introduis peut-être des jugements de valeur. Peut-être que pour un musicien de l'époque de Moussorgski, cette orchestration est bien meilleure que celle de Ravel.
Tourchmalov, russe, au moins d'adoption, puisqu'il était d'origine géorgienne, mais Il incarne donc cette école russe d'orchestration, là où Ravel incarnerait une école française. Ce serait quoi la différence entre l'orchestration à la russe et l'orchestration à la française ?
Alors, c'est une question un petit peu vaste, dans la mesure où, déjà, ne serait-ce qu'au sein de l'école russe, comme on va le voir tout à l'heure, Moussorgski et Rimsky-Korsakov n'ont pas tout à fait la même conception de l'orchestration.
Ouais.
On pourrait dire que Ravel, de plus, s'est aussi beaucoup inspiré par Rimsky-Korsakov, donc il y a une sorte de mixture, on va dire, entre le style de Ravel. On sait que, par exemple, dans Daphnis, il s'est beaucoup inspiré de Scheherazade, donc il y a des mélanges comme ça, stylistiques, qui opèrent.
Mais, si là, vous dites que la frontière n'est pas nette, mais il y a quand même
la frontière n'est pas nette, mais disons que ce qui singularise tout de même Ravel, c'est d'abord une appétence pour les sons purs et donc pour une certaine recherche de contrastes de couleurs qui sont difficiles à obtenir dans l'orchestre de Tourchmalov parce qu'il y a trop de mélanges avec les cordes, alors que si on différencie davantage davantage les pupitres comme le fait Ravel, on obtient bien sûr des contrastes beaucoup plus accusés. Et donc, il y a une espèce d'intégrité du son chez Ravel qui n'existe pas chez Touchmalov.
Peut-être qu'on peut reprendre juste le tout début pour écouter les deux versions. Donc, voici le tout début de cette promenade par Touchmalov. Et le même début par Ravel.
Bon, on sait que Ravel avait un certain humour, en fait, dans cette façon de choisir la trompette seule pour commencer. C'est sûr qu'on pouvait pas choisir de manière plus atypique. Et en réalité, avec le recul, on a l'impression que c'est quand même une des meilleures solutions. Alors, bien sûr, ce que vous entendez au départ, la trompette seule d'un côté, de l'autre côté, des doublures en octave qui sont assez traditionnelles dans l'orchestre romantique parce que c'est ce qui permet d'obtenir un certain volume, une certaine, dans la nuance forte, c'est presque une nécessité. Et le fait d'avoir les violons doublés par les clarinettes, les violoncelles, qui soit en mixture avec les bassons, c'est quelque chose auquel Ravel va écarter délibérément. Le principe des contrastes, vous l'entendez bien entre la première et la deuxième phrase. Sinon, chez Ravel, on passe simplement d'une trompette seule à un ensemble de cuivres avec trois trompettes, trombone, tuba et corps, alors que Touchmalov, lui, il va plutôt procéder là aussi par contraste, mais il se contente d'augmenter le volume orchestral, mais sans procéder vraiment à un changement aussi caractérisé de couleur.
Et voici comment Ravel termine cette promenade.
Là, c'est assez spectaculaire aussi. On voit que par rapport à Touchmalov, donc déjà une certaine sobriété chez Ravel qui n'utilise pas du tout les percussions. Et surtout la manière de réaliser les cordes chez Ravel qui procède beaucoup par division des pupilles. Donc en quelque sorte, il affaiblit son grand orchestre à cordes et ça permet de faire davantage ressortir les pupitres des vents, des bois et des cuivres. C'est-à-dire que la manière de disposer les instruments n'est pas si différente que ça entre Touchmalov et Ravel. Simplement, c'est la manière de disposer chacun des groupes et de procéder à des alliances qui vont en quelque sorte rééquilibrer en faveur des vents l'orchestre ravelien. En fait, il part d'une orchestration traditionnelle, mais il va toujours vers la singularité, la rareté, la surprise et l'étonnement, comme il fera tout au long de la
Vous avez cette phrase dans un article qui s'appelle « Éloge de la fragilité ». Au moment où son orchestration pourrait paraître lisse à force de perfection technique, Ravel apporte un zeste d'originalité qui nous émerveille. Il faisait, Ravel, la différence entre orchestré et instrumenté. Ça voulait dire que orchestré était quelque chose de plus artistique que instrumenté, qui serait juste de l'artisanat?
Disons que, alors ça, c'est le reproche qu'il fait à Manuel Rosenthal quand il lui apporte un de ses travaux. Il lui dit, voilà, mais Manuel, vous n'avez pas orchestré, vous avez simplement instrumenté. Alors, chez Ravel, c'est toujours assez difficile d'analyser parce qu'il y a une sorte d'humour latent. On n'est jamais très sûr de ce qu'il veut dire. On sait que, par ailleurs, il a expliqué qu'orchestré, c'était quand même plutôt tromper l'auditeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire introduire des détails d'orchestration qui fait qu'en réalité, on ne sait pas exactement ce qu'on entend. L'exemple le plus souvent cité, c'est dans Ma Merloie, au début, quand il double le corps avec sourdine, avec des altos en pit. Pour lui, c'est une sorte de petit ajout de timbre qui fait qu'en fait, l'auditeur perd ses repères. Et donc, il y a cette idée-là. Parce que orchestrer, ça pourrait aussi dire, attention, dans un orchestre, il y a un arrière-plan, il y a des plans sonores, contrairement au piano où on peut créer des arrière-plans, mais beaucoup moins facilement, parce qu'on n'a jamais que deux mains, même s'il y a les pédales et il y a toutes sortes d'outils qui vont permettre de créer des plans sonores à l'orchestre. C'est justement tout cet art d'une musique sur plusieurs dimensions qui va permettre effectivement de passer d'une simple instrumentation à une orchestration. Donc vous voyez, le terme n'est pas facile à analyser chez Ravel parce qu'il peut avoir plusieurs significations.
Oui, parce que le curseur est en chargé d'ironie.
Voilà, c'est ça.
On va écouter un fragment d'une nuit sur le Mont Chauve dans deux versions. Oui. Une qui est instrumentée par son compositeur Moussorski et puis l'autre par Rimsky-Korsakov. Vous voulez commencer par laquelle?
On a le choix. Alors commençons peut-être quand même par Rimsky-Korsakov, parce que c'est quand même la plus connue.
Et c'est Charles Dutoit qui dirige l'Orchestre symphonique de Montréal. Et donc la version Moussorgski, cette fois c'est Fritz Reiner qui dirige l'Orchestre Symphonique de Chicago.
Oui, c'est assez spectaculaire parce que, en fait, Rimsky-Korsakov, c'est admirablement orchestré, c'est un parfait équilibre entre les instruments, c'est très homogène, très cohérent, et souvent on a vanté son orchestration à juste titre pour ses qualités de couleur. Or, quand on compare avec Moussorgski, on pourrait dire que c'est beaucoup plus intuitif, il va pas respecter les canons d'écriture orchestrale de son époque, et dans ce que vous entendez, il utilise essentiellement des timbres purs, donc vous avez un mélange de bois et de cornet, alors que là où Rimsky va mettre en mixture, en doublure, si vous voulez, avec des violons. Pareil pour les trombones, qui chez Moussorgski sont, on ne peut pas imaginer grand-chose d'autre que des trombones pour ce thème en valeur longue, timbre pur chez Moussorgski, et au contraire, mixture, là aussi ça donne plus de rondeur, c'est plus confortable, c'est plus solide, c'est plus beau, entre guillemets, mais encore une fois, c'est pas ce que recherche cet esthétisme, c'est pas ce que recherche Moussorgski, donc lui, il va dire, mais non, moi je veux juste des trombones, ça a un côté un peu abrupt, un peu rude, mais c'est justement ça l'idée en fait donc il y a, c'est là où l'orchestration elle fait forcément intervenir des choix esthétiques et en l'occurrence ici
c'est des choix de caractère à plein régime, ouais.
Pardon,
sont des choix de caractère.
Voilà, c'est ça, des choix de caractère et de couleurs et de timbres et tous ces éléments qui rentrent en jeu.
Bonjour Nathalie Hérold.
Bonjour.
Quand on parle par exemple de plan sonore, c'est bien qu'il y a des enjeux d'orchestration qui vont toucher à la forme de l'œuvre. Et pour les musicologues, ça veut dire que les considérations de couleur, de timbre, sont des considérations pleines quand on fait l'analyse d'une œuvre. On ne s'en tient pas juste à la répartition des tonalités comme on fait souvent.
Oui, tout à fait. Une grande partie de mon travail a consisté notamment à étudier cette dimension qu'on nomme le timbre, qui est souvent une dimension relativement oubliée par l'analyse musicale, qui se focalise souvent sur des paramètres un peu plus évidents de la partition que sont les hauteurs, les durées, quoique peut-être encore un peu moins les durées que les hauteurs. Et effectivement, une partie de mon travail a consisté à examiner de quelle manière le timbre, cette dimension particulière, pouvait interagir avec la forme musicale, dans le sens où, pour certaines œuvres, notamment à partir du début du 19e siècle, il me semble que l'architecture sonore, telle qu'elle découle du timbre ou de tous ces paramètres concrets relatifs à l'acoustique et la perception, eh bien, ont quand même une influence sur ces formes, notamment ces formes qui deviennent plus asymétriques, une forme ABA avec un A qui n'est jamais repris de manière complètement identique au A initial, par des changements de texture, par des changements d'écriture, et qui justement modèlent ce timbre qui va modeler la forme musicale.
Parce qu'on avait enregistré ici même à la médiathèque musicale de Paris un épisode modulé où on commentait notamment ces changements de couleur harmonique. C'est peut-être pas un hasard si on prend le mot couleur pour désigner aussi des changements d'harmonie.
Oui, tout à fait. Alors couleur, c'est assez intéressant comme terme, parce qu'il faut savoir qu'on utilise le terme timbre en langue française, mais qu'en langue anglaise, on parle, ou même en allemand, on parle de Klangfarbe, donc de couleur du son, ou même de sound color. Donc la question du timbre est vraiment une question de couleur. Alors parfois, la couleur, on l'utilise de manière très métaphorique pour parler de certaines couleurs harmoniques, mais c'est aussi pour signifier, je pense, c'est tous ces aspects qui, finalement, relient le timbre à l'harmonie, puisque l'harmonie, si on l'examine de manière un peu plus précise, c'est peut-être plus qu'une juxtaposition de hauteurs, parce que d'un point de vue acoustique, mais il y a tout ce mélange de sons qui va se mettre en place selon les dispositions harmoniques qu'on va choisir. Si on a un accord qui est plutôt écarté de manière très large, si on a un certain nombre de doublures, tout ça va bien évidemment avoir un impact sur la qualité sonore, donc sur le timbre. Donc ces paramètres sont intrinsèquement liés.
Ouais. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin en 2010, vous aviez participé à un colloque qui travaillait Chopin, les idées, les interprétations, les influences, et votre contribution s'intitulait « Le rôle du timbre dans le renouvellement des formes pianistiques chez Chopin ». C'est-à-dire que, quand bien même il était essentiellement au piano et que vous vous arrêtiez sur le corpus de piano, c'est bien en termes de couleur aussi que son style pouvait évoluer.
Oui, bien sûr. Alors Chopin est un très bon exemple. C'est un de ces compositeurs qui a largement composé pour son instrument privilégié de prédilection qui était le piano. Donc on a vraiment ici un exemple tout à fait intéressant de ce que j'appelle parfois une orchestration pianistique. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est cet art de mélanger les sons avec un instrument qui souvent est considéré comme étant monochrome, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein. Finalement, on trouvait aussi l'expression que j'aime bien utiliser. Il disait aussi l'idée de machine à timbre, hein, cette manière de pouvoir développer des sonorités, des couleurs particulières à l'aide de cet instrument polyphonique et très riche. Et il me semble que Chopin a apporté une contribution majeure de ce point de vue-là.
Mais alors pour entamer ce genre d'analyse, vos outils, c'est pas seulement comme un certain nombre de musicologues de regarder la partition et puis d'en déduire un certain nombre d'informations sur la forme, c'est aussi par exemple de prendre une interprétation, un enregistrement, de le passer dans un sonagramme et de regarder comment la dynamique spectrale peut évoluer au cours de la pièce.
Oui, exactement. Alors en termes de méthode d'analyse, l'analyse traditionnelle, bien évidemment, est très intéressée par les partitions et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des éléments relatifs au timbre ou à la couleur sonore qui ne sont pas dans les partitions. Bien évidemment, on ne peut faire l'économie d'une analyse des partitions. Il y a des choses qui sont notées, il y a des indications textuelles, il y a tout un système d'accentuation et même le choix des hauteurs, je dirais, possède un impact sur la couleur, hein, le choix des registres, hein, qui souvent est un petit peu oublié par l'analyse harmonique. En général, on ne s'intéresse pas trop à la question des registres, hein, quand on chiffre des accords. Pourtant, c'est un paramètre important qui apparaît sur la partition. Et bien évidemment, il y a ce son dans sa matérialité, je dirais, au-delà d'une simple interprétation, parce que ce qui m'intéresse, c'est la façon dont une œuvre musicale, disons, se concrétise d'un point de vue sonore au-delà d'une interprétation particulière. C'est pas l'idée, forcément, de revenir à l'idée compositionnelle du compositeur, on ne sait pas évidemment ce qu'il avait en tête, hein. Mais c'est l'idée que on va pouvoir analyser un ou plusieurs enregistrements, mais au-delà des simples dimensions interprétatives, de la simple liberté, hein, qui est donnée à l'interprète de pouvoir choisir, hein, des configurations, donner naissance à des configurations sonores particulières, mais elle est vraiment au cœur de l'œuvre, de ce qu'elle veut dire, en fait, du point de vue sonore, de sa matérialité sonore. Ça passe évidemment par des outils comme l'utilisation de sonagrammes, de descripteurs audio, qui sont bien évidemment des aides à l'écoute. On parle parfois d'écoute instrumentée, mais finalement, ce qui décide au fond le choix de l'analyse, c'est évidemment l'écoute personnelle, mais à l'aide de tous ces outils qui sont aussi indispensables.
Alors ça donne quoi? C'est-à-dire, si on prend par exemple le Nocturne opus 9 numéro 2, le fameux, un musicologue, j'allais dire standard, mais sans que ce soit forcément péjoratif, ne regarde que les hauteurs, quelle information il va rater que vous découvrez précisément par ce type de méthode?
Alors par exemple, dans le Nocturne opus 9 numéro 2 de Chopin, que j'ai beaucoup étudié, une analyse harmonique serait tout à fait intéressante. Je donne parfois des pièces dans cet esprit-là à mes étudiants à l'université en cours d'analyse. Néanmoins, quand on s'intéresse à la question du timbre et de la couleur, on peut par exemple, dans cette pièce en particulier, questionner l'idée du beau son qui était travaillé et souhaité par Chopin, et aussi cette question parfois qu'on retrouve du piano qui chante. L'idée du piano qui chante, c'est cette idée qu'on retrouve dans certains nocturnes d'une mélodie de la main droite qui va obtenir une couleur particulière par le choix justement de tout l'accompagnement textural qui le soutient et qui permet de mettre en valeur ces notes jouées par la main droite, donc à la partie supérieure, par le biais d'un choix conforme de hauteur. C'est-à-dire grâce au choix des bons registres et des bonnes hauteurs à la main gauche, avec des basses profondes qui sont appuyées par une pédale qui va durer pendant toute une harmonie. Et puis ensuite, ces accompagnements avec une partie médiane jouée en accord à la main gauche, permettent de renforcer un certain nombre de notes mélodiques, notamment des notes mélodiques importantes, et de leur donner cette couleur particulière parce qu'il y a justement des harmoniques communes avec les notes de la basse ou de la partie médiane qui vont faire sonner par le biais de ces résonances par sympathie et avec l'aide de la pédale, évidemment, ces notes de la partie supérieure et donner cet effet de piano qui chante. Et si j'en suis venue à ça, c'est aussi parce que je suis moi-même pianiste et qu'en travaillant ces pièces, on sent très bien qu'il y a des équilibres à trouver entre la basse, donc toute la partie de main gauche. Hein. On sent que certaines notes vont être plus en interférence ou en interaction avec la partie mélodique et que cette dernière va grâce aux équilibres de la main gauche, donner naissance à, disons, une résonance particulière. On le sent quand on joue. Donc, du coup, tout ceci m'a permis de développer une analyse en ce sens-là.
Mais comment est-ce que vous choisissez l'interprétation que vous allez passer dans le sonagramme? Justement, une interprétation où intuitivement, avant l'analyse, vous vous dites qu'il y a un équilibre des caractéristiques texturales qui va vous être peut-être plus capiteux analytiquement ou...
Les interprétations, on peut en choisir plusieurs. L'idée, c'est aussi de les comparer, de voir comment fonctionne chacune de ces interprétations. Mais généralement, les pianistes ont quand même cette sensation, cette technique particulière qui leur permet d'aller dans le sens de ce qui est, je pense, inscrit dans la partition. Puis l'idée, c'est de voir comment toutes ces choses-là s'instancient d'un interprète à l'autre. Mais globalement, si l'idée, est ancrée dans la partition, il est quand même assez bienvenu de pouvoir le montrer dans un enregistrement ou un autre. Donc souvent, il y a un certain nombre de points communs, évidemment, qui émergent de ces interprétations, qui ne sont pas que des choix personnels, mais émanent quand même d'une écriture, en fait, l'écriture du timbre.
Si voici Maurizio Pollini dans ce Nocturne, opus 9, numéro 2. Nathalie Hérold, les pianistes apprennent à dissocier le timbrage de leur main gauche et de leur main droite. On peut dire à ce moment-là qu'ils sont dans une position d'orchestrateur, en quelque sorte.
Oui, quelque part, c'est l'idée d'une orchestration pianistique. J'aime bien rappeler que l'orchestration, évidemment, le terme fait référence à l'orchestre, mais orchestrer, ça va bien au-delà d'une pensée qui est uniquement liée à ce groupe instrumental qui est un orchestre. J'aime bien rappeler cette réflexion qui est partagée également par mon collègue Stephen McAdams, que l'orchestration, c'est l'idée de juxtaposer, d'organiser, d'articuler des sons dans un objectif musical, quels que soient les types de sons, que ce soit des sons orchestraux, évidemment, mais on peut penser également à des sons dans un ensemble de musique de chambre, puisqu'il y a aussi une question d'orchestration qui est nette, dans des instruments polyphoniques, avec l'exemple du piano ici, mais l'orgue est également un très bon exemple d'instruments multitimbres, voire même également dans le cas de la musique électroacoustique, qui présente des possibilités, pas infinies, mais démultipliées par rapport aux instruments acoustiques traditionnels.
Et où les questions de mixture sont absolument exacerbées. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition de Stephen McAdams, Anthony Girard, d'une orchestration qui irait au-delà de simplement de la formation symphonique ?
Si vous voulez, le terme est tellement riche qu'on peut l'employer, effectivement, l'élargir me paraît tout à fait pertinent. Au sein de l'orchestration elle-même, c'est vrai qu'on peut établir, quand il s'agit simplement du rapport avec l'orchestre, une différence entre l'idée d'orchestrer à partir d'une œuvre préexistante, donc très souvent du piano, voix et piano, voire de la musique de chambre, et le fait d'écrire directement pour orchestre. Donc on pourrait dire, par exemple, que Mozart n'orchestre pas, il se contente de composer pour orchestre, encore qu'on ne sait pas très bien si ses symphonies, il les a pas déjà plus ou moins improvisées au piano. Donc on n'a pas de certitude exactement, mais enfin en tout cas dans le processus connu, oui. On a l'idée que on voit très bien Mozart.
Si ce n'est que les concertos qu'on dit pastiche, ce sont littéralement des orchestrations de sonates de Jean-Christian Bach.
Oui, alors justement ça montre que l'idée était de toute façon, elle est toujours potentiellement, d'ailleurs on voit bien dans certaines œuvres pour piano de Mozart, elles sont, on sent bien que l'orchestre est latent, donc il y a cette idée d'orchestre latent, ouais. Mais c'est vrai qu'après, à partir du moment où on établit cette distinction, à partir du moment où on voit que même quand on passe d'un instrument à l'orchestre, Ravel va dire que c'est de l'orchestration ou que c'est pas de l'orchestration, donc là Ravel est plutôt dans une option restrictive parce qu'il a un objectif très particulier de ce que c'est pour lui l'orchestration, ouais. Maintenant effectivement si on élargit à tous les phénomènes qui viennent d'être évoqués, oui c'est une autre façon de concevoir les choses, sans orchestre, mais ça reste effectivement au sens large une orchestration.
Il se trouve que Chopin a très peu composé pour orchestre, enfin il a quand même
concertos. C'est pas un modèle d'orchestrateur, oui.
Encore qu'on dirait qu'il est un modèle d'orchestrateur pour Bellini, parce que quand on écoute Casta Diva, on a l'impression que c'est un nocturne de Chopin orchestré divinement par...
Alors, encore une fois, quand je dis que c'est pas un modèle d'orchestrateur, oui. j'ai l'air de contredire ce que vient de dire Nathalie, c'était pas du tout mon intention, parce qu'en réalité, quand je pensais à orchestration, à ce moment-là, c'était par rapport au goût qu'avait Chopin pour l'orchestre, qui semble-t-il est assez réduit, et surtout, si on s'avise, quelqu'un s'avise, et c'est arrivé, bien sûr, d'orchestrer les œuvres pour piano de Chopin, donc pour orchestre, il est clair qu'il n'y a pas de modèle auquel on pourrait se référer.
Alors, c'est ce qu'a fait Jean-François.
Voilà. D'où justement, chacun connaît, enfin peut-être plus ou moins, mais l'orchestration de Jean-François des 24 préludes de Chopin, donc qui semble être un pari absolument insensé, mais enfin, en tout orchestrateur, il y a quand même toujours l'idée d'un pari insensé, puisque Ravel s'était fait une spécialité d'orchestrer ce qui parfois paraît impossible. Mais en l'occurrence, ici, pour Jean-François, on va simplement, je crois, entendre juste quelques extraits.
C'est ça, de quelques-uns des préludes, surtout pour montrer que ces choix ne sont pas du tout systématiques.
Tout à fait.
On écoute les quelques mesures de l'opus 28 numéro 2 pour commencer. C'est une main droite qui devient un corps.
Un corps et une texture à l'arrière-plan. Alors, on sait qu'au piano, déjà, c'est très étrange. Donc là, c'est démultiplié par une sorte de polyphonie. C'est essentiellement des cordes graves dans lesquelles Jean-François va introduire aussi le jeu Ponticello. Donc, il va, en fait, esthétiquement, il ressent le caractère un peu presque funèbre, en fait, de ce prélude. Et en introduisant ce col legno, il ajoute une nuance d'étrangeté. Et c'est tout à fait réussi comme choix de couleur. Effectivement, il y a cette idée aussi de différenciation des plans sonores. Là, c'est très net, on a le corps d'un côté, les corps de l'autre, mais ça reste très très proche du texte, sans être effectivement stylistiquement proche de Chopin.
Dans le prélude en mi mineur, c'est-à-dire le numéro 4, là, il n'y a plus qu'une contrebasse, et encore elle est dans l'aigu du registre de la contrebasse, et cette fois la main droite est assurée par un alto solo.
Oui. L'alto est une belle trouvaille. On peut essayer de trouver mieux que l'alto pour cette voix principale, mais finalement, on se heurte quand même à beaucoup de difficultés. Enfin, voilà, ça reste ouvert, je ne fais pas de proposition.
C'est un exercice que vous faites faire à vos étudiants au CNSM?
Fait tous les exercices possibles, parce que l'idée de l'orchestration, c'est toujours d'essayer de partir d'un texte de départ, d'imaginer aussi plusieurs solutions. Donc, ouais. À un moment donné, ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux déjà une corde ou un vent? Effectivement, le vent, le problème en soi, on pourrait se dire, très beau, un corps anglais au début, seulement comment on fait après? près pour tenir toute la longueur de la phrase avec un seul corps anglais, on a des problèmes aussi, disons, purement techniques qui vont se poser. Mais ce que j'aime bien dans cet extrait aussi, c'est cette espèce d'anachronisme que vous remarquez dans la texture d'accompagnement. Vous voyez que chaque... on a des accords continus, ils se modifient par chromatisme, et il y a parfois une note qui change. Et donc, Jean-François, l'idée de faire un piece chaque fois qu'il y a une note qui change. Donc, on entend une espèce de mélodie de timbre en piece qui est tout à fait étrange et qu'on n'entend pas du tout dans la version pour piano, mais qui finalement, à l'orchestre, donne une sorte de petit relief très à la fois doux et singulier qu'on est en droit d'apprécier.
Et puis, page 53 du volume 2 de vos techniques d'orchestration, vous isolez un troisième prélude qui est le 15e.
Alors là, c'est un choix encore assez singulier. Le hautbois solo qui va être accompagné essentiellement par les flûtes et clarinettes. Alors là encore, on pourrait dire bon que Jean-François s'inspire des formations avant qui étaient quand même assez rarement selon ce dispositif-là à cette époque-là. Mais enfin, disons qu'on s'en approche. Ce qui est original, c'est qu'il a placé les flûtes sous le hautbois. Donc là aussi, c'est une disposition un peu inhabituelle. Et puis surtout pour ce prélude, comme vous savez, qui avait le surnom de la goutte d'eau, donc qui au piano, on a quand même bien l'idée d'une sorte de petite pulsation qui finalement est un peu gommée ici. Jean-François fait plutôt le choix d'un ostinato un peu feutré avec ses clarinettes en syncope. Et donc là encore, l'idée, c'est pas de reproduire, c'est pas d'imiter en fait le piano, mais vraiment de trouver une solution qui instrumentalement privilégie certaines couleurs et avec les instruments choisis va faire des choix qui seront pas nécessairement, disons, du note à note par rapport au piano, mais bien des choix singuliers. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que c'est presque autant, enfin, peut-être plus du Chopin que du Jean-François, mais enfin on pourrait dire que c'est moitié-moitié, quoi, qu'il y a vraiment une part de l'orchestrateur ici qui amène sa propre touche, et il le fait, comme vous le voyez, sur trois petits exemples, toujours avec un sens de l'équilibre et surtout un désir de se renouveler, parce que c'est aussi le principe sur 24 préludes, il ne faut surtout pas qu'il y en ait deux qui se ressemblent.
Et puis d'occuper un peu tous les musiciens de l'orchestre, il y a aussi cette composante.
Ça fait partie effectivement des missions de l'orchestrateur. Alors bien sûr, le tuba est toujours un peu laissé pour compte, parce que surtout dans les préludes de Chopin, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'utilisation, encore que faudrait écouter le recueil complet. Mais oui, effectivement,
je crois que Georges Sand raconte que Chopin n'était pas très fan de l'image de la goutte d'eau, enfin des images poétiques trop littérales.
Sans doute, hein, j'ai rappelé ça juste pour pour mémoire, mais
on peut pas faire du note à note. Est-ce qu'on ne peut pas, avec un orchestre complet, tout simplement avoir autant de notes qu'il y a dans une partition pour piano? Ça veut dire de faire des modifications harmoniques aussi?
Disons qu'en fait, si, on peut en avoir beaucoup plus, puisque justement le piano n'a que deux mains et l'orchestre peut démultiplier ça.
Oui, mais ça veut dire qu'on peut être tenté, quand on est orchestrateur, d'amplifier l'harmonie donnée par la partition originale.
En fait, on peut avoir même la tentation de réduire, mais très très souvent, plutôt ajouter des notes. Donc en fait, il y a différentes techniques, entre guillemets, pour le faire, à savoir soit des redoublements dans les registres d'octaves, ce qui sonne très bien à l'orchestre, parce qu'on a des affinités très claires entre les instruments qui font qu'une flûte à l'octave aiguë du hautbois peut donner une très belle couleur. Donc ça peut donner un supplément, mais on peut aller plus loin et se dire que finalement, là, le pianiste, avec ses 10 doigts, dans certaines écritures, surtout dans des mouvements assez rapides, où le pianiste, finalement, il va privilégier notamment le dessin mélodique, des figures d'accompagnement, mais sans forcément avoir le temps de restituer toute l'harmonie dans sa plénitude. Donc c'est là que l'orchestre permet, lui, de créer des plans sonores nouveaux, donc de rajouter des notes qui sont déduites de l'écriture de piano. C'est ce que fait Ravel chaque fois qu'il orchestre sa propre musique. Il va donc rajouter des notes, mais on peut avoir d'autres exemples où on peut carrément modifier légèrement l'harmonie, tout simplement pour se dire, voilà, ça va sonner encore mieux si je rajoute telle note qui n'est pas vraiment dans l'accord, mais qui l'est en quelque sorte. Et, si vous voulez, c'est très intuitif comme approche, parce que vous dites, tiens, à ce moment-là, j'ai besoin de telle ou telle note, donc effectivement, je vais la rajouter. Mais ça peut toucher à tous les paramètres. Vous pouvez changer le tempo, vous pouvez changer les nuances.
Et alors, est-ce qu'on peut changer la tonalité? Parce que alors, ça, c'est un peu plus tabou, j'ai l'impression, d'aller jusqu'à transposer.
Ça a été quand même beaucoup... Malgré tout, ça a été beaucoup pratiqué, ce changement de tonalité, soit pour des raisons de commodité. C'est vrai que quand vous avez au piano 7 dièses à la clé, à l'orchestre, ils sont pas très, n'aiment pas beaucoup, en fait, hein, ce genre d'armure. Alors, on peut aussi supprimer l'armure et recopier les notes telles quelles. Mais c'est arrivé très souvent pour des orchestrateurs de transposer.
Glazounov, par exemple, quand il transcrit Borodine.
Alors, en fait, Glazounov, quand il transcrit Borodine, c'est intéressant parce qu'en fait, on sent qu'il le fait pas. Il le fait pas nécessairement par facilité. Par exemple, s'il a 5 bémols, parfois il va le changer en 2 dièses, par exemple il passe de ré bémol majeur à ré majeur, parce qu'il veut une écriture en piste qui évoque la sérénade, donc c'est beaucoup plus facile, ça sonne beaucoup mieux en ré majeur, parce qu'il y a les cordes à vide, et donc il a une possibilité, disons, au niveau instrumental qui s'ouvre à lui. En revanche, et à un autre moment, il va plutôt rajouter des dièses, parce qu'il a envie de créer une couleur orchestrale un peu différente du piano, mais qui lui semble préférable. Donc c'est très intéressant. Bartok aussi, dans ses orchestrations, parfois il change la tonalité, parfois il la change pas. Souvent il change le tempo, plus vite, moins vite. Il y a jamais de règle, en fait, et c'est ça qui est fascinant, en fait.
Nathalie Herold, c'est tellement mêlé de toute façon, on peut pas changer couleur timbrique sans changer la couleur harmonique.
Oui, effectivement, l'harmonie, comme je disais tout à l'heure, et le timbre sont intrinsèquement liés. Il y a même j'aime aussi rappeler la fin du traité d'harmonie d'Arnold Schönberg, hein, qui date du début du XXe siècle, hein, où finalement il étudie de chapitre en chapitre des accords, hein, qui sont de plus en plus complexes, en commençant par les accords à 3 sons, 4 sons, et quand il arrive aux accords 5, 6 sons et plus, il termine par cette formule très intéressante en disant que au-delà de la question de l'harmonie se trouve le timbre, et que ce domaine est encore complètement inconnu et qui donnera sûrement du fil à retordre aux compositeurs et puis aux musicologues qui suivront. Effectivement, on voit vraiment que le timbre peut être considéré comme un prolongement de l'harmonie, parce que tout simplement, qu'est-ce qu'un timbre? On fait l'analyse acoustique d'un son lié à une note particulière, et bien qu'est-ce qui est contenu dans un son? Et bien il a un ensemble de partiels qui sont harmoniques ou parfois inharmoniques, donc c'est déjà une superposition de fréquences. Il y a quand même une proximité très importante avec une harmonie qui est une superposition de notes, donc de plusieurs fréquences fondamentales, mais qui finalement, si elles fusionnent bien entre elles, ressemblent quand même beaucoup au spectre d'un son unique.
Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'orchestration, on peut parfois utiliser le jeu des consonances et des dissonances. Pour prendre un exemple assez connu, dans la symphonie pastorale de Beethoven, la scène au bord du ruisseau, Beethoven, en fait, va réaliser des petits frottements de seconde mineure qu'on trouvera nulle part dans sa musique pour piano, mais à l'orchestre, qui sonne très bien, parce que ça va être une sorte de collusion entre la flûte et le hautbois, donc ça va atténuer en quelque sorte cette dissonance. Donc on peut à la fois à l'orchestre soit atténuer la dissonance, soit au contraire, comme le feront par exemple des Bartok ou des Prokofiev, les accentuer, ou Stravinsky quand il fait des parallélismes de seconde, c'est bien une question de timbre, mais c'est donc il y a un jeu à la fois sur l'harmonie et sur la couleur. Donc
on merci peut soit Anthony, soit adoucir, Gérard, de m'avoir fait la transition vers Beethoven, puisque c'est un de vos sujets, Nathalie Herold, puisque vous poussez cette idée que la forme pourrait être déterminée par le timbre, jusqu'à dire que au lieu de penser la forme des œuvres de Beethoven comme rondo ou bien thème et variation, comme on a beaucoup l'habitude de le faire dans les classes d'analyse, vous allez dire que même pas. Oui. L'arietta de l'opus 11 n'est pas forcément un thème et variation.
Oui, effectivement. Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant, effectivement, à étudier, surtout dans les dernières sonates pour piano de Beethoven, où il y a, on le sait, hein, y compris du point de vue de l'harmonie et de la forme traditionnelle, une évolution vraiment significative des formes. Hein. Beethoven innove énormément du point de vue de la forme dans ses dernières sonates. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de déconstruire complètement les formes traditionnelles, hein, effectivement la forme sonate existe, les formes en thème et variation existent, mais c'est de regarder comment on peut les envisager dans une perspective un petit peu différente quand on se place non pas du point de vue des seuls auteurs, mais en prenant en compte justement ces questions de timbre. Et du coup, dans l'exemple de l'arietta que vous mentionnez, qui est le deuxième mouvement de la dernière sonate de Beethoven, il s'agit d'un exemple de ces mouvements lents, très longs, hein, qui durent selon les interprétations quasiment une vingtaine de minutes, hein, qui du point de vue de l'analyse formelle traditionnelle, est constitué par un thème et une série de variations. Mais on voit effectivement, à l'aide de différents outils, je n'ai pas forcément l'espace ici d'expliciter de manière détaillée, mais on voit qu'il y a une progression qui se met en place du point de vue des textures tout au long de cette succession de variations, à tel point qu'on pourrait dire que la dimension sonore, la dimension timbrique, permet de penser différemment la forme avec un point culminant, une variation qui est vraiment culminante, avec une progression qui se met en place jusqu'à peu près aux deux tiers du mouvement, hein, et puis ensuite une deuxième partie qui va amener à la fin de la pièce, hein, et qui permet d'entendre un petit peu différemment ce mouvement par rapport à ce classique thème et variation qui ne rend pas forcément compte de la dimension sonore concrète de l'œuvre, hein, oui. Puisque le matériau est à tel point transformé, hein, qu'il se passe aussi autre chose qu'une simple juxtaposition de différentes modifications d'un thème initial.
Le paradoxe étant que ça coïncide avec le moment de surdité totale de Beethoven.
Oui, effectivement, ouais. C'est la période où, certainement que ce n'est pas complètement sans lien, ouais, avec cette conception nouvelle des formes, j'imagine.
Ouais. On va écouter Michael Levinas qui s'exprimait dans le cadre d'un hommage à Michel Deguy à la Maison de la Poésie à Paris en juin 2023. Et puis ensuite, on va en même temps l'écouter interpréter cette arietta parce qu'il avait précisément aussi cette intuition d'interprète, pour le coup, de ce que quelque chose de l'épreuve de la résonance joue dans la forme de cette arietta.
C'est-à-dire ce qui est cette découverte de la manière dont le temps passe, mais le temps passe, c'est plus que sans césure, le temps se métamorphose. Le temps se métamorphose et il se métamorphose par la résonance, et ça c'est très beethovenien, et par la contemplation du son. Évidemment, cette résonance se transforme en arietta. Et ça, l'arietta n'existerait pas sans cette écoute de la résonance qui monte et qui descend. Et non seulement la résonance qui monte et qui descend, mais la phrase beethovenienne existe par l'ascension et par la descente, et l'ascension et la descente est en même temps un mouvement respiratoire qui est à l'origine de la mélodie. Et je pense que le poète, quand il parle de ce qui monte et qui descend, je crois qu'il y a là effectivement cette écoute, même s'il ne l'a pas formulée dans la phrase beethovenienne, de sa structure respiratoire qui donne un sens à l'incantation et qui, sans aucun doute, pour le poète, fait partie du mouvement même du poème.
Levinas qui interprète un extrait de cette arietta de l'opus 111 de Beethoven, tout en parlant, en reprenant les mots de Michel Deguy, puisque c'est bien Michel Deguy qui parlait de montée et de descente à propos de l'opus 106, c'est d'où la collusion entre les deux opus, Nathalie Hirol.
Oui, tout à fait, il exprime ici des choses tout à fait intéressantes, évidemment d'un point de vue d'interprète, hein, puisque Michael Levinas est connu pour avoir interprété l'intégrale des sonates pour piano de Beethoven. Il a aussi ce profil particulier d'être lui-même un compositeur, notamment de musique spectrale. Et c'est aussi cette posture qui est intéressante à considérer, puisque ça permet aussi de développer certaines idées. Je l'entends là, je ne connaissais pas très bien cet extrait en particulier, mais il parle de l'idée de la résonance qui génère la forme. Oui. Ça, c'est une idée qui est tout à fait intéressante également. On voit dans quelle mesure la résonance, le son, peut être considéré comme un noyau qui ensuite va donner naissance à quelque chose de plus grand. Donc cette idée, je la retiens. Il y a aussi cette question de dynamique des formes. On a parlé tout à l'heure, dans l'analyse musicale traditionnelle, en général, on apprend, et c'est très bien, hein, les formes musicales classiques. Mais il y a, au-delà de ça, une question de dynamique des formes qui a aussi été beaucoup pensée à partir notamment du XXe siècle, hein, pas uniquement pour la musique, mais pour la musique aussi en particulier. Cette dynamique des formes, c'est aussi une manière d'envisager les formes musicales au-delà de ces modèles classiques, avec en référence toutes ces nouvelle musique qu'on peut aussi avoir dans l'oreille. C'est vrai que quand on est auditeur ou musicologue, analyste, qu'on est passé par des écoutes de musique électroacoustique, de musique spectrale, peut-être qu'on n'entend plus forcément les pièces musicales, les formes musicales du passé de la même manière. Mmh. Hein. Et il y a différentes manières d'écouter les choses, évidemment, si on est un pianofortiste.
Vous voulez dire que c'est d'avoir écouté les spectres qui nous amènent à réécouter Beethoven de cette façon-là.
Peut-être, mais en tout cas, ici, le discours développé par Michael Levinas va vraiment dans ce sens-là, et ça me semble tout à fait intéressant. Il y a aussi ses écrits où il parle lui-même, ses écrits datent déjà d'il y a plusieurs années, de différentes réflexions autour des sonates pour piano de Beethoven, et je sais que concernant cette Arietta, il parle notamment un moment précis, au moment où il y a un si bémol grave qui jouait à peu près, disons, deux tiers de l'œuvre, d'une sensation, selon lui, de perception d'une microtonalité. Et là, on voit vraiment que c'est des concepts qui sont issus de tout ce spectralisme qui est appliqué ici, mais qui est tout à fait pertinent. On le voit, je l'ai montré dans certaines de mes réflexions.
Vous avez été poser des questions à des musiciens qui interprètent de la musique spectrale, par exemple partielle de Griset, et ils vous ont témoigné comme leur point de repère dans l'interprétation est souvent plus timbrique que de l'ordre de la hauteur, par exemple.
Oui, effectivement. Alors, au-delà de la musique pour piano du 19e siècle, j'ai aussi eu l'occasion de pouvoir mener des projets de recherche avec des musiciens actuels sur des pièces de musique du 20e siècle, et notamment un projet de recherche que j'ai mené lorsque j'enseigne encore à l'université de Strasbourg, en collaboration avec Pierre-André Vallade, le chef d'orchestre, qui dirigeait un orchestre d'étudiants de la Haute École de Musique de Zurich, pour interpréter justement le cycle des espaces acoustiques. Et nous avons eu l'occasion de l'interroger et d'interroger les musiciens au sujet de leur perception justement de la sonorité, du timbre, de toutes ces choses-là concernant leur posture d'interprète de ces musiques. Et j'avais toujours retenu cette réflexion de Pierre-André Vallade, qui expliquait que puisque vous savez certainement, dans Partiel, par exemple, de Gérard Griset, il y a l'utilisation de la microtonalité. Et ceci est quand même une technique qui, instrumentalement, pour les instrumentistes, n'est pas évidente à mettre en œuvre. Pour le chef d'orchestre, il s'agit aussi de pouvoir les guider de manière à obtenir des sons qui soient fusionnés, puisque Partiel, c'est à la base Gérard Griset qui avait enregistré un mi grave de trombone et qui l'a orchestré
de contrebasse,
oui. mais c'est joué aussi par le trombone dans la pièce. Donc il a orchestré ce mi grave et du coup il y a évidemment de la microtonalité à mettre en place. Et Pierre-André Vallade, le chef d'orchestre, nous disait qu'il s'aidait justement de ce phénomène de fusion sonore qui lui permettait de détecter si un instrument était sur la bonne hauteur ou non. Si l'instrumentiste, par exemple la flûte, qui doit jouer, je n'ai plus la partition en tête, mais par exemple un sol quart de ton grave, si la flûte n'était pas complètement sur cette hauteur, le chef d'orchestre l'entendait en dehors de ce son fusionné qui était l'objectif à rechercher. Donc on peut voir ici que les questions de timbre orientent directement le travail des instrumentistes. Il l'a explicité en entretien, ce qui est tout à fait intéressant.
Anthony Girard, on a l'impression qu'il y a eu un âge d'or de l'orchestration, que ça a été quelque chose qui a remué la musique française dans l'entre-deux-guerres beaucoup, ou c'est à ce moment-là qu'on en débat beaucoup autour de figures comme Koechlin,
Disons que ça prend naissance. Alors le premier, c'est tout de même Berlioz, mais c'est vrai
qui
que
fait
c'est
le premier traité d'orchestration,
Oui, et puis qui le premier orchestre lui-même, c'est Nuit d'été, donc ça crée effectivement un précédent, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, mais pas simplement en France, en fait. Déjà en Allemagne, il y avait pas mal d'orchestrateurs compositeurs très avisés. En fait, on a des collaborations avec des, par exemple, Félix Motel avec Wagner. Et puis après, on a bien sûr les Chabrier, Debussy, Ravel. Et puis tout, finalement, tous leurs contemporains étaient vraiment tous des orchestrateurs extrêmement avisés qui avaient un métier assez remarquable. On est toujours assez émerveillé quand on écoute des orchestrations réalisées dans ces années-là. Et tout ça culmine effectivement avec Koechlin, qui a réalisé une sorte de synthèse à travers son grand ouvrage d'orchestration sur tout ce qu'il pouvait connaître. C'était un musicien très curieux de toutes les tendances possibles de l'écriture orchestrale. Et ça, en tout cas, ça s'enseigne toujours selon ce modèle qui nous a été légué par une tradition quand même assez étonnante.
Et on va écouter un cas, c'est celui de Melmonis, qui compose d'abord pour piano une Salomé. On va écouter vraiment le tout tout début, et puis on va écouter sa propre orchestration dans la foulée.
Alors ça, c'est un cas de figure assez courant, parce qu'il est plus connu chez Ravel, mais enfin, il y a beaucoup d'autres compositeurs ou compositrices qui l'ont pratiqué, notamment Melmonis, donc écrit une sorte de petit poème, on pourrait dire poème symphonique pour piano, en tout cas des poèmes pour piano, et puis quelques années après, l'idée de lui donner une dimension orchestrale. Comme vous allez pouvoir en juger, ça suscite en fait une sorte de recréation, c'est-à-dire que c'est plus tout à fait la même pièce, il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui viennent s'ajouter, pas simplement des simples doublures, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà, et c'est un exercice, enfin c'est plus qu'un exercice, c'est un moment d'écoute, une expérience d'écoute tout à fait passionnante.
Et donc, on peut écouter exactement la même chose, enfin, sauf que maintenant, c'est orchestré par Melmonis elle-même et par l'orchestre de la radio de Cologne, dirigé par Christian Macellaro.
Là, c'est assez frappant à quel point l'orchestre va faire ressortir les couleurs. En fait, ça va émaner souvent de l'harmonie, c'est-à-dire que chaque harmonie va susciter certains types d'orchestration. On a aussi tous ces éléments ajoutés, notamment à travers les percussions qui peuvent apporter aussi une sorte de scintillement, mais aussi des notes répétées dans les bois qui viennent tout d'un coup habiter un espace que le pianiste avec ses seules deux mains ne pouvait pas évidemment explorer. Donc ça donne effectivement une sorte de nouvelle composition d'après. Mais ça suggère aussi l'idée que qu'on évoquait tout à l'heure, dans toute pièce pour piano, il y a souvent quand même un orchestre latent, et c'est ce que l'orchestrateur a du plaisir à restituer.
Au point que la version pour piano était comme une esquisse de la pièce
exactement,
pour orchestre.
C'est
ensuite,
ça, l'idée d'une esquisse, et que l'aboutissement, mais en fait, en réalité, l'esquisse a aussi sa valeur, peut-être parce qu'elle a de suggestif, de quelque chose qui irait au-delà de sa simple réalisation purement pianistique.
Nathalie Hérold, vous citiez Stéphane McAdams qui a dirigé un grand projet de recherche internationale qui s'appelle ACTOR, c'est un acronyme qui veut dire Analysis, Creation and Teaching of Orchestration, qui a consisté à prendre plein de traités d'orchestration de Berlioz à nos jours, à essayer d'en produire une synthèse et de pousser la synthèse jusqu'à développer aussi des algorithmes qui peuvent orchestrer. C'est quoi un algorithme qui orchestre? C'est, on appuie sur un bouton, ça fait une orchestration à la russe, ou bien à la française, ou bien à la Ravel, ou bien à la Melbonis?
Ce serait magnifique, mais je crois qu'on n'en est pas tout à fait là encore. Alors le projet ACTOR, effectivement, est un projet qui s'est développé sur 7 années, hein, de 2018 à 2025. C'est un grand projet international qui a mis en relation, qui a été piloté par l'Université McGill de Montréal, mais qui a mis en relation un certain nombre d'institutions traduction aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord. Le projet avait différents axes, notamment un axe d'analyse avec différentes perspectives analytiques très importantes. Un axe est effectivement dédié aux outils, notamment aux outils informatiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'ont été développés un certain nombre d'outils d'aide à l'orchestration. Et puis un axe également d'applications pédagogiques, notamment pour pouvoir apporter des éléments pour l'enseignement de l'orchestration, non seulement dans les classes d'orchestration, mais également à l'université, dans les classes d'analyse ou dans d'autres séminaires, voilà, pour pouvoir intégrer progressivement les questions de timbre et d'orchestration dans l'enseignement, ce qui souvent fait largement défaut. Donc pour en revenir à la question des outils, effectivement aujourd'hui on n'est pas tout à fait encore capable de faire orchestrer une pièce donnée par une machine, je dirais heureusement, mais il y a un certain nombre d'outils quand même très puissants qui permettent de donner en entrée par exemple un son enregistré. Souvent ce sont des sons relativement courts, mais ça peut être éventuellement des enregistrements plus étendus. Hein. Et certains logiciels sont aujourd'hui capables de donner des propositions d'orchestration pour des effectifs qui ont été choisis par l'utilisateur de l'outil. Hein. Donc si vous voulez par exemple enregistrer le son d'une voix pendant 5 secondes, eh bien vous pouvez demander à la machine une proposition d'orchestration pour un ensemble qui serait peut-être un quatuor de flûte ou un grand orchestre symphonique. Il y a effectivement une variété de possibilités, et tout ceci peut donner aux orchestrateurs de nombreuses idées. Ce n'est pas l'idée de faire composer mais d'augmenter le nombre de possibilités de pouvoir ensuite choisir dans son propre travail.
Alors pour entendre comment comment le cri d'un coq peut être orchestré, ou un cri, ou bien des gouttes de pluie, je renvoie à l'épisode généré de Métaclassique qu'on avait enregistré à l'IRCAM avec Philippe Esling, qui nous les donne à entendre. On peut, cela dit, entendre quand même la démo de 32 manières possibles d'orchestrer l'accord de La mineur. De nuances de la mineur. Vous en êtes perplexe, Anthony.
Exactement.
on écoute une de vos orchestrations, Anthony Girard, des histoires naturelles de Ravel. Comment vous avez travaillé ? Parce que là, vous orchestrez un orchestrateur quand même quand vous faites ça.
Oui, c'est toujours un petit peu risqué de marcher sur les pas de Ravel. Effectivement, j'ai cherché à recréer ce que Ravel aurait, à mon avis, aurait pu faire. Donc c'est toujours évidemment hypothétique, mais c'est un grand plaisir de se lancer dans cette musique qui, encore une fois, je trouve, appelle l'orchestre, enfin, la musique de Ravel. Elle est effectivement merveilleusement écrite pour le piano, et en même temps il y a toujours quelque chose qui semble encore possible au-delà de cette perfection de l'écriture ravelienne. Donc voilà, c'est un...
Parce qu'il y a un chapitre des techniques d'orchestration où vous réfléchissez beaucoup sur le problème de l'arrière-plan et de comment on transcrit les effets de pédale, parce que ça crée une espèce de fond qui n'est pas noté sous forme de notes sur la partition, mais dont il faut bien organiser un rendu sonore quand on passe à l'orchestre.
Alors, en fait, cette question des fonds, elle est historiquement extrêmement passionnante parce qu'elle existe déjà à l'époque de Mozart. Mozart, on ne se soucie pas de savoir s'il mettait la pédale ou pas, mais à l'orchestre, effectivement, il va créer une sorte de legato orchestral, soit par des tenues de corps, soit par des positions des accords des bois dans l'aigu. Et donc, cette technique, elle s'est renouvelée au fil du temps. C'est vrai que plus l'écriture est allée vers le contrepoint, moins on avait besoin des fonds. Mais quand on revient, effectivement, à une écriture à la fois très pianistique et qui génère de l'utilisation de la pédale, on va être tenter effectivement de recréer à l'orchestre une sorte d'équivalence. Donc on a ça par exemple dans l'orchestration de Debussy, de la première gynopédie de Satie.
Oh,
En fait, Debussy procède, il reproduit quasiment textuellement le piano, mais il va rajouter des strates, en fait, des strates de résonance. Ça peut être aussi bien des tenues de cordes divisées dans l'aigu, des petites pulsations de pizz dans les cordes aussi divisées. Enfin, il y a toutes sortes de procédés, mais c'est de l'invention chez Debussy. C'est vraiment intuitif parce que ça rejoint l'idée d'une musique à caractère presque mystique, avec une sorte de halo qui l'entoure et qui donne effectivement une sorte de nouvelle dimension, en fait, et qui sort d'arrière-plan, mais qui est aussi un nouvel espace. Donc en fait, c'est à la fois derrière et autour, en quelque sorte.
Merci beaucoup, Anthony Girard. Merci, Nathalie Hérold. Merci à la médiathèque musicale de Paris, Christiane et Dapierre, de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cette émission. Et donc, on écoute Stéphane Degout avec l'ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Masmondé, dans la dernière des histoires naturelles de Ravel, dans votre orchestration, Anthony Girard.
Bossu de ma cour, elle ne rêve que plaît à cause de sa bosse. Les poules ne lui disent rien. Brusquement, elle se précipite et l'achève. Puis elle baisse sa tête. Penche le corps, et de toute la vitesse de ses pattes maigres, elle court frappée de son bégure jusqu'au centre de la roue d'une dinde. Cette poseuse l'agaçait. Ainsi, la tête bleue, ses barbillons hâtifs. Cocardière, elle rage du matin au soir. Elle se bat sans motif, peut-être parce qu'elle s'imagine toujours qu'on se moque de sa taille, de son crâne chauve et de sa queue basse. Et elle ne cesse de jeter un cri discordant, et elle se lève comme une poire.